On va se tourner dans Jean au chapitre 6. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ta parole sur laquelle nous pouvons nous fonder pour notre vie, pour nos choix, pour nos décisions. Merci parce que tu l'as préservée et tu as permis que nous l'ayons en notre possession, entre guillemets, à notre disposition, Seigneur. Et pardonne-nous lorsque nous n'en prenons pas davantage la sève, nous ne méditons pas assez dessus, Seigneur. Merci parce que tu veux nous faire grandir par elle. C'est par elle que nous pouvons te connaître. La foi vient de ce qu'on entend et la parole vient de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette opportunité de lire ensemble ce grand passage sur Jésus, le pain de vie, le pain de Dieu. Merci pour la révélation de Jésus dans l'évangile de Jean. Merci parce qu'elle parle à nos cœurs au plus profond de nous, Seigneur. Je te prie d'interpeller chacun, chacune, avec les passages, les versets que tu as pour tous. Seigneur, on sait qu'il y a des croyants, il y a des gens qui doutent, il y a des non-croyants parmi nous, Seigneur, et toi, tu peux te révéler à chacun, à chacune, par ton Esprit Saint, Seigneur, qui est là pour nous convaincre de justice, de jugement, et de péché et de jugement. Sois béni, Seigneur. Accomplis ton œuvre dans nos cœurs. Nous prions aussi pour toutes les églises de la ville qui se réunissent en ton nom, qu'elles puissent t'adorer en esprit et en vérité, et que tu puisses les faire croître, les bénir aussi, Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de spécialistes en communication qui sont embauchés par les hommes politiques, par ceux qui font de la publicité, les publicitaires. Et en fait, le grand communicateur de l'histoire, c'est Jésus-Christ lui-même. Et j'aime bien la façon dont il utilise des métaphores, des comparaisons qui parlent à chacun de nous. Et aujourd'hui, on a commencé à en parler avec Tonio la semaine dernière. Mais Jésus va utiliser l'analogie de la nourriture. Ça nous parle. C'est merveilleux de ce que Dieu a créé la nourriture et qu'il a fait que nous aimions manger. C'est des fois un problème parce qu'on peut manger trop, suivant les régions du monde. Mais c'est quelque chose qui parle à chacun, à chacune. On a été invité par des amis il n'y a pas très longtemps, et je garantis qu'à pendant le repas, je croyais que c'était la fin. Ça commençait par un apéritif dînatoire. Il faut faire attention avec les apéritifs dînatoires qui se poursuivent par un repas, parce qu'on a tendance à avoir faim au début et on prend l'apéritif dînatoire. Puis c'est là qu'on s'aperçoit qu'on pourrait s'arrêter, mais qu'il faut passer à table pour le repas. Et en même temps, on se laisse faire parce qu'il y a des bons plats. Mais à la fin du repas ou le soir, on se dit, ça y est, c'est fini, je ne mange plus pendant 3 semaines. Et puis la surprise, c'est que le lendemain matin, au petit-déj, on se refait des tartines et c'est reparti. La nourriture, Dieu aurait pu faire qu'on subsiste simplement en assimilant, comme les plantes, l'oxygène de l'air par un système au lieu de chlorophyllien, mais il nous a donné ce grand privilège. Et Jésus va utiliser cette illustration de la nourriture pour nous parler de choses très profondes, très spirituelles. On va lire à partir du verset 35. On reprend là. « Je vais relire rapidement à partir du verset 30. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus est prêt à leur parler de choses très spirituelles et il s'arrête au premier abord aux choses physiques. Il leur parle du pain de vie qui descend du ciel et qui va les rassasier, qui donne la vie, et ils lui disent « On veut de ce pain-là ». Et il doit leur annoncer au verset 35 qu'en fait, ce passage qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans l'Exode et dans le livre des Nombres, où les Israélites qui font la traversée du désert sont nourris par une espèce de comme des petites boulettes de pain, des petites boulettes comme des petites chips qui descendent du ciel, qui tombent et qui leur permettent de subsister. Il y a plusieurs règles qui les accompagnent, mais en fait, eux, ils se disent, c'était bien, on avait eu cette manne. Le mot manne, ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Parce que quand ils voyaient cette nourriture qui était tombée par terre, ils se demandaient entre eux, mais qu'est-ce que c'est? Manou, man, et donc le mot de manne a été attribué à cette nourriture céleste qui leur a permis de subsister, qu'ils ne pouvaient pas accumuler sous peine de ce qu'elle se gâche les week-ends, sauf le week-end. Et souvent, les illustrations qu'on trouve dans la Bible, en fait, leur vrai sens, c'est un sens relatif à Dieu lui-même, à Jésus-Christ lui-même. On dit que la manne est une préfiguration ou en terme de théologie, on dit un type, une empreinte à l'avance, un prototype de Jésus-Christ. Et Jésus va leur expliquer et on va lire ensemble. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai, cette personne, le dernier jour. Des affirmations assez incroyables, en fait. Certains disent que Jésus n'a jamais dit être Dieu ou ne jamais avoir dit qu'il venait du Père. C'est clairement le cas, en fait, ici, on le voit. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs voulaient le faire mourir, parce qu'ils savaient bien que ce qu'il disait, ça équivalait à dire qu'il était Dieu le Fils, qu'il était Dieu, Dieu le Fils, venu, envoyé par Dieu le Père, et qui allait envoyer son Saint-Esprit après sa résurrection. Et il s'étonne, Jésus, de l'incrédulité des gens. Il a accompli des miracles, il a nourri 5000 personnes, 5000 hommes et leurs familles de façon miraculeuse. C'est un épisode qui est relaté dans les trois autres évangiles, mais ce discours sur le pain et sur le pain de vie qu'est Jésus ne se trouve qu'en Jean. Et Jean, c'est souvent l'évangile le plus profond au niveau d'annoncer la divinité de Christ, de Jésus-Christ. Je suis le pain de vie. C'est moi qui suis le pain de vie. C'est un des premières grandes déclarations où Jésus déclare « Je suis ». « Je suis », c'est-à-dire c'est celui qui est, c'est l'auto-existant, c'est une proclamation de divinité non contestable. On sait que les Juifs avaient tellement de respect pour Dieu qu'ils ne prononçaient pas son nom, « Je suis », qu'ils le remplaçaient par le tétragramme, qui représentait les voyelles qui veulent dire en hébreu « je suis l'auto-existant, je n'ai besoin de personne, je suis celui qui est ». C'est inimaginable, « je suis celui qui est ». Il nous déclare qu'il est, avec cette expression, qui insiste, en grec c'est « ego eimi », c'est « moi, je suis ». Il va dire qu'il est le pain de vie. Au chapitre 8, il va nous dire qu'il est la lumière du monde, qui éclaire le monde. Au chapitre 10, il va nous dire qu'il est la porte qui nous permet, si on la franchit, de rentrer dans son bercail, dans son royaume. Il va nous dire au chapitre 10 qu'il est, je suis, ego eimi, le bon berger, celui qui prend soin de ses brebis, avec amour, compassion, avec talent, avec réussite. Au chapitre 11, il va nous dire, je suis la résurrection, la vie. Au chapitre 14, il va nous dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie », en ajoutant « Nul ne vient au Père que par moi ». Et puis au chapitre 15, il va nous dire qu'il est la vigne. Sept déclarations, sept, c'est le nombre parfait, le nombre de ce qui est complet. On a gardé ça dans certains aspects de notre vie contemporaine. La semaine compte 7 jours. Dans une gamme, il y a 7 notes et on retombe sur la note à la 8e. Et il nous dit « Je suis le pain de vie ». Et il nous dit « Celui qui vient à lui n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » La faim, je l'ai évoqué au début, c'est un besoin naturel. Et comme beaucoup de péchés, ce sont des besoins naturels qu'on satisfait de façon non naturelle. Et le glouton, c'est celui qui a une faim naturelle, mais qui va la cultiver en mangeant et mangeant, en élargissant son estomac, je ne vous donne pas de détails. Et là, celui qui vient à moi, il n'aura plus jamais faim. Le lendemain matin, il ne va pas se remettre à chercher quelque chose qui va satisfaire son âme. L'illustration ici, c'est clair dans le passage, et vous connaissez peut-être déjà cette illustration du pain de vie, c'est que ça nous satisfait au plus profond de nous-mêmes. De même que le corps a besoin de nutriments, de nutriments, notre âme a besoin de Jésus-Christ. Notre âme a besoin au plus profond d'elle d'avoir la paix, d'avoir une réponse aux questions de l'existence. Il n'y en a pas de plus belle que celle que Jésus nous amène. Il se présente comme celui qui, une fois qu'on est venu à lui, on n'a plus jamais faim. Aujourd'hui, il est de commun de chercher des réponses spirituelles dans des tas de domaines, que ce soit dans des sectes, soit dans des pratiques, ce soit dans d'autres continents. On va étudier la spiritualité de telle ou telle peuplade et essayer de voir si ça peut nous satisfaire. Mais j'espère que si vous avez déjà goûté à Jésus-Christ, ça a été la fin de votre quête. Une fois qu'on a goûté, on n'a plus soif de trouver autre chose. On a soif de le connaître personnellement. On a soif d'être en relation intime avec lui. La nourriture est quelque chose d'intéressant. C'est vrai que ce chocolat, merci encore, va devenir pour nous peut-être une partie de ma joue. Après un travail par mon système digestif, système de sanguin, ça va aller nourrir mes cellules corporelles. Mais Jésus, celui qui vient à lui, il cherche plus, il est satisfait. Jésus devient nous. Nous devenons comme des petits Christs. Et sa parole vient nous transformer. C'est par sa parole, par son esprit, qu'on va l'ingérer, en quelque sorte, et qu'il devient partie intégrante de nous-mêmes. Mais celui qui est venu à lui, de façon sérieuse, de façon réfléchie, il n'a pas plus jamais envie d'aller trouver la nouvelle religion à la mode, la nouvelle spiritualité. Je me méfie toujours du mot « les spiritualités ». Parce que pour moi, ce sont des contrefaçons, des ersatz. Ce n'est pas la vérité. Jésus-Christ, c'est la vérité. Et celui qui croit n'a plus soif. Notre corps a soif. Et ça nous rappelle l'histoire de la femme au puits, de la Samaritaine à qui Jésus disait « Toi, merci, est-ce que tu peux me donner à boire ? Moi, je connais une eau. Si tu en bois, tu n'auras plus jamais besoin de venir la puiser. Elle sera en toi. » Et elle disait « Ah, ça m'intéresse. » Croire fait référence à la soif. Venir à Jésus, ça fait référence à la faim. Nous avons besoin de manger et de boire pour vivre. Et Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. On peut manger, faire un grand repas, et on est reconnaissant pour ceux qui préparent ces repas. Nancy a fait récemment son premier cheesecake. Et ceux qui ont pu le goûter diront que c'était le meilleur cheesecake qu'ils ont jamais mangé. On est reconnaissant, mais en même temps, une fois qu'on l'a fini, on dit « Tu nous en refais un autre, Nancy ?» Jésus leur dit, donc à ces Juifs qui doutent de sa capacité, il y a des gens qui suivent Jésus pour des tas de mauvaises raisons. La foule attire les foules. Donc il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont curieux de voir ce qui se passe. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'il a fait des miracles et ils aimeraient bien ne plus avoir à aller travailler pour pouvoir manger. Et ils se disent, si on traîne avec lui, il va nous nourrir. Il guérissait les gens, plus besoin d'aller à l'hôpital. Il n'y avait pas beaucoup d'hôpitaux, mais plus besoin de dépenser pour essayer de se faire soigner. Il y avait cette femme qui, pendant des années, avait dépensé tout son argent pour essayer de se faire soigner. Et Jésus l'a guérie en un instant. Et puis, il leur dit, « Vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. » On peut voir des choses surnaturelles, des miracles, mais ce n'est pas ça qui va vraiment toucher notre cœur. et faire qu'on va accepter Jésus-Christ au plus profond de nous-mêmes. Encore une fois, il rappelle que c'est le Père qui donne des gens à Jésus. Si vous croyez en Jésus-Christ, en Dieu, que vous l'acceptez comme votre maître et votre sauveur, vous êtes, d'après ce verset, comme un cadeau que Dieu fait à Jésus. J'avais jamais tellement réalisé cette façon de voir les choses, mais là, tous ceux qu'il m'a donnés, alors je ne sais pas comment on était emballés, mais il nous a donné à Jésus. Et la volonté du Père, là aussi, il insiste sur le fait qu'il n'est pas à vouloir faire sa propre volonté. Et ça nous indique que nous, en tant que petit Christ, en tant que chrétien, on ne devrait pas être là à vouloir accomplir notre volonté pour notre vie, mais on devrait chercher quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Et il dit, la volonté du Père, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils, c'est-à-dire qui le rencontre vraiment, et croit en lui et la vie éternelle, et il nous fait la promesse que nous serons ressuscités au dernier jour. Notre vie ici-bas, elle peut nous paraître... Et c'est une bonne chose, fondamentale. Elle peut nous paraître très importante, mais lorsque 100 années sont passées, 70 ans, 120 ans, quelle que soit la durée de votre vie, elle va vous paraître très très courte. Et après ça, il y a une éternité qui vous attend. Et si nous avons vu le Fils pour qui il est, si nous avons cru en lui, alors nous avons cette vie éternelle. Nous allons vivre pour toujours. Et ça ne sera pas une existence pénible, ça sera une vie abondante jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fin des temps qui ne finiront jamais. C'est là que l'astrophysique rejoint la science, la Bible. Je suis toujours émerveillé du fait qu'on sait qu'il y a des trous noirs, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On nous dit qu'il ne faut pas nous en approcher trop. On touche les choses faites par Dieu ou dans sa grandeur, dans son immensité. Et il nous dit très simplement, « Je suis le pain, venez et mangez. » Lisons verset 41, « Les Juifs murmuraient. » Le mot « murmurer », ça veut dire « rouspéter ». Le mot en grec, c'est « gougousmoï ». Et rien que le mot « gougousmoï », les juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « je suis le pain descendu du ciel ». Il disait « mais il raconte n'importe quoi, on le connaît, on sait bien que c'est le fils de Joseph, Jésus. On connaît son père, on connaît sa mère ». Comment est-ce qu'il raconte qu'il est descendu du ciel ? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Et là, ils font la confusion que beaucoup font encore, de penser que Jésus, c'était un homme qui est né à Noël, dont la maman s'appelait Marie, et le papa Joseph, même si on dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Et puis, c'était simplement... un homme qui est né le 25 décembre. Alors, peu importe la date, on pense qu'il est plutôt né au printemps, vu les détails qui entourent le récit de sa naissance. Mais Jean nous a dit que au commencement, tout au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus a existé de toute éternité. Nous avons une éternité future, Jésus a une éternité passée comme Dieu le Père, comme le Saint-Esprit, et bien sûr une éternité future avec nous, si nous sommes à lui. Il réalisait qu'en fait, lorsque ce gars qu'il connaissait affirmait être descendu du ciel, c'est pas dit ici, mais on peut supposer qu'il pensait qu'il a pété les plombs. Ou il dit vraiment qu'il est Dieu, et ça, ça mérite le blasphème si c'est pas vrai. C'est un blasphème et ça mérite la mort. C'est ce que vont faire les chefs juifs. Verset 44, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » C'est un verset qui résume un peu le grand débat des théologiens, de savoir si entre l'homme et Dieu, qui c'est qui décide des choses ? Il y a d'un côté la souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui décide. Et puis de l'autre côté, il y a le libre arbitre de l'homme. Et on peut se dire, mais en fait, tout est décidé d'avance. À quoi bon chercher à faire quelque chose vis-à-vis de Jésus ? C'est un éternel débat chez les théologiens entre Dieu fait tout et en fait, moi, en tant qu'homme, je suis responsable ou pas. Apparemment, ce sont deux vérités qui s'opposent. Le fait que Dieu est souverain, c'est le super roi de tout l'univers. Il voit tout, il sait ceux qui vont venir à lui peut-être et ceux qui ne vont pas venir à lui. Et puis de l'autre côté, l'homme a le choix de venir ou de rejeter Dieu. Et ce verset le résume bien. Le Père qui m'a envoyé nous attire à Jésus. Mais nous avons la responsabilité de venir à lui. Et on a eu des traités de théologie sur ces sujets. On a même peut-être entendu parler, si vous avez fait des études en France, de français, Pascal et les jansénistes, etc., la grâce suffisante et toutes ces choses-là, la grâce léniente. Et un autre passage, il y a un auteur contemporain qui disait, en fait, lorsqu'on viendra et qu'on verra le paradis, on verra une grille, une belle entrée, un peu comme le parc Phénix, avec un grand panneau sur lequel il y aura Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc quiconque, ça veut dire, je peux rentrer, mais cet auteur, ce commentateur dit qu'en fait, quand on se retournera pour voir l'entrée, on verra de l'autre côté du panneau, il y aura marqué... Ça sera Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. C'est difficile à réconcilier, mais en même temps, ce sont deux vérités qui sont clairement annoncées dans la Bible. Et le grand prédicateur anglais Spurgeon disait qu'on lui demandait comment il cherchait à réconcilier ces deux notions qui apparemment s'opposent. Et lui disait, avec son accent anglais, je ne cherche pas à réconcilier des amis. Il le disait en français quand il venait à Menton. Ce sont deux vérités qu'on a du mal à réconcilier dans notre petite tête d'homme, mais c'est ainsi. Dieu nous attire, c'est presque comme il nous c'est parce que le mot nous tire vers Jésus et nous avons à dire d'accord. Nous allons à venir vers lui. Et tout ça en parlant de pain. Pas mal, hein ? Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et qui s'est laissé instruire vient à moi. On retrouve le verset de Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend la parole de Dieu ou la parole de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas la foi, et que quelque part vous avez envie d'avoir la foi, commencez à lire la parole de Dieu. Certains se disent, c'est injuste. Dieu en appelle certains et les autres, il ne les appelle pas. Et moi, je vous dis, si vous pensez comme ça, si vous avez envie d'être appelé par Dieu, allez vers lui. Ce sera la preuve, vous vérifierez vous-même qu'il vous a appelé. Parce que celui qui appelle Dieu, Dieu l'attire. Et donc c'est souvent un débat que certains philosophes ou gens bien pensants utilisent pour dire « on ne peut pas savoir, laissons tomber la foi chrétienne ». C'est pourtant bien déclaré dans la parole, Dieu nous attire, mais il ne force pas. Nous avons à dire « ok ». Mais c'est jamais nous qui avons envie d'aller vers lui. Il n'y en a même pas un seul qui veut connaître Dieu. Est-il dit dans Romains en citant des passages de l'Ancien Testament. Toute personne qui a entendu le Père et s'est laissée instruire. Il y a une instruction. La parole nous explique les choses. J'ai rencontré des personnes qui sont venues à Jésus-Christ simplement en lisant la parole de Dieu, la Bible. Si vous ne devez lire qu'un seul livre, je vous implore de ne lire que la Bible. Après, bien sûr, il peut y avoir des explications, des commentaires, d'autres livres de méditation sur la Bible, mais allez à la source. Je vous dis certaines choses, allez les vérifier par vous-même. Paul se félicitait de ce que les habitants de la ville de Bérée ne le croyaient pas nécessairement lorsqu'il leur annonçait des choses. Ils allaient voir dans la Bible pour voir si c'était bien la vérité. Ça, c'est le meilleur remède contre les charlatans, contre les gourous de toutes les sectes possibles et imaginables. Allez voir si ce qu'ils vous disent est en accord avec la Bible. La Bible est la vérité. En vérité, c'est une phrase qui revient à plusieurs reprises. C'était le mot « Amen, Amen ». C'était une façon de renforcer la solennité des déclarations et d'indiquer qu'elles étaient absolument vraies. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de la vie. Il était le pain du ciel. Il est le pain envoyé par Dieu. Il est le pain de la vie. Vos ancêtres qui ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. La manne à laquelle il faisait référence, ça les avait nourris un temps, mais ça n'avait pas empêché qu'un beau jour ils décèdent et se retrouvent enterrés. Par contre, voici comment est le pain qui descend du ciel, ce pain de la vie, justement. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis, verset 51, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Déclaration incroyable. Qu'aucun des grands hommes de la Bible n'a jamais fait, que ce soit Moïse, David, jamais a dit « si vous me mangez, vous ne mourrez pas ». La dernière fois que quelqu'un a mangé, pour vous éviter de manger, c'est lorsque vous étiez dans le ventre de votre maman. Personne ne peut manger à votre place. Et ça va avec Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas avoir la foi par quelqu'un d'autre. Parce que votre meilleur ami est chrétien depuis longtemps, très engagé, parce que votre grand-mère qui prie pour vous depuis votre naissance ou même avant est une femme de foi, vous devez venir personnellement à Jésus-Christ et le recevoir. Verset 52, là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux et continuent à rouspéter. Comment peut-il nous donner son corps à manger ? Il pensait au cannibalisme. Et c'est vrai qu'en fait, avec une foule de 5000 personnes qui traînaient encore dans le coin, il n'y aurait pas eu beaucoup de nourriture si c'était vraiment de manger le corps de Christ dont il s'agissait. Verset 53, Jésus leur répond, « en vérité, encore une fois, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaüm. Il avait commencé en dehors. Et puis apparemment, à un moment, ils étaient rentrés, il avait continué à expliquer qu'est-ce que c'était que ce corps de Jésus qu'il fallait manger. Et les gens qui le suivaient, ils étaient prêts à croire qu'il pouvait leur donner de la nourriture, mais l'idée de le manger, c'était quelque chose qui répugnait aux Juifs. Et Jésus n'était pas quelqu'un qui essayait de faire du politiquement correct. C'est ça que j'apprécie dans les paroles de Jésus. Il disait la vérité avec courage. Il ne cherchait pas à noyer le poisson dans l'eau, comme on dit des fois. Là, ils sont scandalisés qu'il faille le manger. Il va plus loin, il n'essaie pas d'expliquer ce que ça veut dire. En fait, on sait que ce que ça veut dire le recevoir au plus profond de nous-mêmes. De la même façon que lorsqu'on ingère de la nourriture, elle devient notre propre corps. Lorsqu'on ingère la foi en Jésus-Christ, qu'on croit en lui, qu'on le laisse décider de notre vie, décider de tout dans notre vie, il devient partie prenante de notre être. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, dira Paul dans l'Épître aux Galates, Éphésiens 2, pardon. C'est fondamental et il sait qu'ils sont de mauvaise foi. Il nous dit qu'il faut le manger, on laisse tomber. Il dit non seulement vous devez me manger, mais vous devez boire mon sang. Il en rajoute une couche, comme on dit. Ils sont choqués au plus profond. Et Jésus n'a pas peur de faire ça, parce qu'il sait que ceux qui ne comprennent pas sont souvent ceux qui ne veulent pas comprendre. C'est pas qu'ils ont un problème de ne pas comprendre, c'est qu'ils ont un problème de ne pas vouloir obéir aux commandes de Jésus. Et donc Jésus ne prend pas de gants avec ces gens qui le refusent, qui le rejettent. Il n'est pas là à se dire, si je les choque, ils ne vont plus revenir à l'église. Et en ce moment, on a des frais avec les travaux. On ne peut pas se permettre de rejeter certaines personnes qui pourraient donner la dîme, qui sait. Non, les cache. Non seulement Vous mangez, mais vous buvez mon sang. Alors, on va prendre la Sainte Cène bientôt. Certains pensent que c'est peut-être une façon de parler de la Sainte Cène, parce que le type de la représentation, c'est que le pain représente le corps de Jésus, brisé pour nous, que la coupe représente son sang, le sang de la Nouvelle Alliance. Mais la plupart des commentateurs pensent qu'en fait, la Sainte Cène n'avait pas encore été annoncée, ce sera un an plus tard, et qu'il s'agit simplement d'une référence au fait d'accepter que Jésus nous transforme et qu'il nous transforme par la puissance de la croix. Le sang fait surtout allusion au sang qu'il allait verser, et lorsque nous l'acceptons, nous participons à ce sacrifice, c'est comme nous lui buvons aussi le sang. Et les deux, la Sainte Cène est très proche de cette illustration aussi, mais il leur dit, cache, non seulement vous devez manger, mais vous devez aussi me boire. Vous devez m'ingérer, je dois devenir vous. Verset 60, après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, cette parole est dure. C'est le mot scléros, comme la sclérose en plaques, ou pour dire que des artères, l'athérosclérose, c'est lorsque les artères deviennent dures et peuvent se briser ou se boucher. Cette parole est dure. L'idée qu'il faut manger le corps de Christ et boire son sang, c'est dur. Et en fait, l'idée, c'est pas tellement que c'est dur à comprendre. Ils avaient compris ce qu'il voulait dire. Ils savaient bien qu'ils n'allaient pas lui faire une entaille pour récolter ses 6 litres de sang et les passer autour. Ils savaient de ce qu'il il parlait d'une intimité étroite, nourrie par la parole, nourrie par la prière, nourrie par la communion fraternelle. Cette communion, il la rejette. Et ils disent, elle est dure cette parole, pas parce qu'ils ne l'avaient pas compris, mais parce qu'elle était dure à obéir, elle était dure à accepter. Et on dit que les persécutions du christianisme au premier siècle utilisaient cette croyance qui avait été véhiculée, qu'en fait, ils encourageaient les gens au cannibalisme. Ce qui était complètement faux, pas fondé, mais qui faisait les gros titres des journaux à scandale. Waouh ! Ça marche, le scandale. Et Jésus leur dit, cela vous scandalise, ça vous fait chuter, ça vous fait tomber. Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Une autre façon, c'est de dire que l'Esprit veut faire certaines choses, mais notre vieille nature n'est pas capable de suivre. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est pour ça qu'il est tellement important de lire la Bible, d'en parler, de la commenter. Je vous invite, si vous, dans vos temps de recueillement personnel, j'espère que vous essayez de le faire chaque jour, ou même plus souvent, si vous avez quelque chose qui vous parle, la prochaine fois que vous rencontrez un ami de l'Église, partagez cela. Tiens, ce matin je lisais, et ça m'a interpellé, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est manger Christ. C'est le partager. Les paroles que je vous dis sont esprit. C'est spirituel, c'est le Saint-Esprit qui les a inspirées, c'est le Saint-Esprit qui les restitue dans votre cœur. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux, dès le début, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait, en parlant de Judas. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples, entre guillemets, se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Donc devant ces paroles un peu radicales, et Jésus n'avait pas peur des paroles radicales, nous devons avoir l'audace de Jésus-Christ lorsque nous parlons de lui. Qu'est-ce que tu as fait Dimanche, hier matin, hier, qu'est-ce que tu as fait de beau? Oh ben le matin, je suis allé à une réunion et puis l'après-midi, on est allé à la plage. Non, je suis allé louer le Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Peut-être que les gens vous rejetteront, mais d'autres vous diront, ah bon, tu es chrétien, parle-moi, est-ce que tu peux m'emmener? J'aimerais bien en connaître plus. Et puis, on arrive à un verset qui, pour moi, a été un verset de fidélité à Christ. Jésus, voyant les gens, ses soi-disant disciples, qui le quittent lorsqu'il devient un peu sérieux, il leur demande, et vous ne voulez pas aussi, vous en allez aussi? Et puis, il y a cette réponse de Simon-Pierre. Souvent, il met les pieds dans le plat, il parle avant d'avoir réfléchi, mais là, ce qu'il a dit, c'est quelque chose qui me nourrit encore aujourd'hui. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a des moments dans ma vie de chrétien où j'étais déçu par ce qui se passait dans ma vie, par ce qui se passait dans mes efforts pour plaire à Dieu. Et des fois, on se dit, oh, on peut être tenté de tout laisser tomber. Et malheureusement, il y a certaines personnes, vous les rencontrez, qui ont fréquenté, qui ont connu le Seigneur Jésus, mais qui ont laissé tout tomber, comme on dit. Et là, quand j'avais ce sentiment, est-ce que c'est vraiment la vérité? Et ce verset est venu à mon secours en me disant, mais vers quelle autre vérité irais-je? Est-ce que j'irai chez un chirurgien esthétique pour me faire implanter des cheveux? Est-ce que j'irai jouer au casino pour devenir millionnaire? Est-ce que je commencerai une vie de débauche pour satisfaire ma chair? Et franchement, et j'espère que vous aussi, franchement, vous pouvez dire, mais c'est ridicule. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher ailleurs que ce que je trouve en toi, Seigneur Jésus? Jésus, la réponse à toutes nos attentes, il est ce pain qui nous satisfait tellement qu'on ne cherche plus ailleurs. On ne cherche plus midi à 14h, on l'a trouvé, on s'en réjouit et on veut le partager autour de nous. Nancy m'a gardé un morceau de ce délicieux cheesecake. Elle en a même réservé un autre morceau pour faire une surprise à quelqu'un. Vers qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68. Gravez-le. Si vous voulez faire un tatouage sur votre corps, tatouez-vous Jean 6, 68. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il affirme, il a compris, il sait. Et Jésus, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable? Il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui l'un des 12. C'est quelque chose qui doit nous interpeller. On peut fréquenter Jésus de loin, mais si on ne l'a pas mis dans notre cœur comme le pain de vie, si on n'a pas bu en croyant en lui, on peut se tromper sur notre relation avec lui. Et Judas, il avait toutes les opportunités. Il y en a qui auraient bien aimé être Judas avant qu'il ne trahisse Jésus. Moi, j'aurais bien aimé être partie du groupe des disciples. Mais rien n'est garanti si on n'a pas vraiment reçu Jésus-Christ au fond de notre cœur. Si on ne cultive pas cette relation, et une fois qu'on l'a trouvée, on est satisfait, on ne va plus chercher ailleurs. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité encore une fois. Merci parce que tu nous expliques que lorsque nous te rencontrons sincèrement en profondeur, Seigneur, tu satisfais toutes nos aspirations, tous nos besoins les plus profonds. Notre soif d'éternité, Seigneur, elle est garantie en toi. On se dit tous, qu'est-ce qu'il peut y avoir après la mort? En toi, Seigneur, nous avons la réponse et c'est tout bon. Seigneur, tu veux nous toucher, tu veux nous transformer, tu veux nous nourrir, tu veux nous abreuver, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-nous lorsque nous cherchons ailleurs à satisfaire nos faims et nos soifs. Donne-nous de cultiver cette réponse de Pierre, de la méditer, qu'elle soit au plus profond de nous, tatouée sur notre cerveau ou à l'intérieur de notre cerveau, Jean 6, 68. Vers qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Toi seul dis la vérité. Merci Seigneur parce que tu veux toucher chacun, Seigneur. Et c'est le Père qui nous amène à toi, qui nous donne à toi. Mais en même temps, Seigneur, tu nous donnes le devoir de parler de toi à tous ceux qui nous entourent. Pour que ceux qui sont prévus par le Père, Seigneur, ils puissent te connaître et faire cette démarche de venir à toi. Et Seigneur, pendant que nous sommes dans le recueillement, je te demande s'il y en a parmi nous qui ont soif de recevoir Jésus-Christ au plus profond d'eux, de le manger comme le pain de vie et de boire son sang comme acceptant le sacrifice de la croix pour nos péchés. Je vous demanderai simplement de me faire signe en levant une main et on pourra prier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire. C'est la plus importante des décisions que vous pouviez jamais prendre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette personne qui veut te recevoir, te manger, pour ainsi dire, dans son être intérieur. Merci Seigneur que tu te laisses ainsi faire et que tu veux nous bénir de cette façon. Sois béni, Seigneur Jésus. Aide-nous à nous remémorer maintenant ce sacrifice que tu as fait à la croix. Il était question aussi de ton corps et de ton sang. Sois béni, Père. Amen.